Vous écoutez
RMC. RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Moundir.
Salut à tous, bienvenue les amis dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches minuit, on est ensemble pendant une heure. Salut Moundir.
Salut mon Daniel, j'espère que tu vas bien.
Impeccable.
Je t'ai vu sur France 2, samedi, au hasard.
Ah, t'as vu, je t'avais pas prévenu, c'est pour la surprise.
J'ai dit quand même, il n'est pas chroniqueur à côté de Christophe de Chavannes quand même.
Non, mais je ne suis pas encore engagé. ça pourrait arriver, tu sais.
Bon, en tout cas, tu passais bien. Arriver. Tu passais bien, poto. Ah ouais, franchement.
Que j'avais mis, parce que tu sais, dans ces cas-là, tu te prépares un peu, la veste, le. Ouais. Je crois que j'avais fait les bons choix.
Là, franchement, ouais, t'as arrivé en mode T1000, ouais, j'ai bien vu. Bien, c'est parti.
Bon, l'important, c'est ça. J'ai prévenu personne.
J'ai vu ça, ouais.
Comme ça, c'était une surprise pour les gens qui m'aiment et me regardent. Et après, comme ça, ils me font un débrief.
D'accord.
Par exemple, Jérémy m'a pas dit s'il m'a vu. Il m'a vu, Jérémy?
Bah oui,
il
t'a vu. Bah oui, le patron.
Voilà, il vient de me voir en replay. Il me dit pareil. Voilà. Tout le monde, notre réalisateur Toto, pareil. Pareil, tout le monde m'a vu. Voilà, tout le monde, voilà. C'est impeccable. Voilà. Bon, maintenant, on peut faire le RMC Poker Show.
Je t'en prie, bien sûr. C'est toi le maître ici.
Alors, le programme, Moundir ce soir.
Ah ouais.
On va quand même revenir sur le Winamax Poker Tour et la grande finale. On y était la semaine dernière. On a fait
beaucoup de monde
sur place. Victoire de Sébastien Le Soif.
Exactement. Alors qu'il a été très, très short. Et,
il sera là la semaine prochaine.
Ah, génial.
Et c'est vrai que beaucoup d'observateurs le donnaient perdant dans le heads-up contre Omar Lakhdari, qui était le grand favori.
Mm-hmm.
Eh bien, il s'en est sorti. Il est reparti avec l'épée.
L'épée, et puis avec aussi la petite bourse qui va avec.
Oui, c'est mieux l'oseille que l'épée.
Ouais, ça, j'aurais laissé l'épée, moi, personnellement.
Ouais, franchement, moi aussi. Franchement, moi aussi. Tiens, d'ailleurs, ça tombe bien, hein, toi qui aimes bien l'oseille, ce soir, c'est spécial oseille, hein, c'est pour toi. Hein. Là, on a de l'homme d'affaires, on a de la crypto. Ça va dérouler. Hein.
Là, c'est ce qu'on appelle le
summum. Là, ça va sentir la business class, ça va sentir la carte noire, c'est tout ce que t'aimes.
Là, je peux te dire que.
Hein, là, l'oseille, il aime bien, mon gars.
Hein. Tu me donnes. C'est quand même exceptionnel, je suis quelqu'un de simple, moi.
Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal.
Je suis très content qu'il soit là, en tout cas.
Éric Larchevêque est notre invité ce soir. Il est avec nous en studio. Bonsoir, Éric.
Salut, Éric. Bonsoir. Bah, je vois que j'ai bien fait de mettre une chemise.
Hein, parce que... oui, Éric. Attention. Voilà. C'est soirée homme d'affaires. Soirée homme d'affaires. Tu ne seras pas seul, parce que tout à l'heure, nous rejoindra Alexandre Tarantino, le cousin de la star d'Hollywood, Quentin Tarantino.
Je ne sais pas s'il est au courant, mais...
Lui, peut-être pas, mais on lui apprendra ce soir. Co-fondateur de Nutzer, cette team poker dont on a souvent parlé dans le RMC Poker Show. Il est par ailleurs gestionnaire d'un fonds de crypto. Alors ça, c'est tout ce que tu kiffes et c'est tout ce que je ne comprends pas.
Non, mais toi, tu ne comprends pas parce que tu n'as pas envie de t'intéresser.
Non, parce que je ne comprends rien.
Parce que tu ne les as pas dans la poche.
Mais quand je comprends rien. Rappelle-toi, Vegas, l'année dernière, on a passé la journée avec des stars de la crypto.
Eh oui.
J'avais été très attentif, n'est-ce pas?
J'ai vu ça. Tu avais surtout les yeux en l'air, effectivement.
Pour la petite histoire, oui, quand même, je m'étais endormi.
Ouais, il s'est endormi.
Dans la piscine, pendant que ça parlait de choses très importantes autour de moi, il m'a dit, t'es vraiment, mais jamais de la vie, tu deviendras riche dans ta vie.
Voilà. C'est pas faux.
Voilà. Ah, c'est pas faux. Merde. Eric, toi, tu es, alors, entrepreneur, homme d'affaires. Tu préfères qu'on dise entrepreneur ou homme d'affaires?
Ouais, entrepreneur, ouais.
Entrepreneur. Ah ouais, pourquoi homme d'affaires? C'est bien, homme d'affaires.
Non, parce qu'entrepreneur, moi, j'ai plutôt, ce sont des projets que je crée, que je lance, que je construis. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un, en plus, qui achète, qui revend, qui fait des affaires. Moi, je suis pas un affairiste. Je suis plutôt un entrepreneur. Donc un créateur de start-up.
Tu as été un temps dans l'émission. Qui veut être mon associé?
Bah, il est toujours.
Oui,
ça fait deuxième saison.
Troisième même.
Ah, c'est la troisième saison.
C'est la troisième. Ouais. Alors, saison 4 bientôt.
Saison 4 bientôt.
Alors je dois vous confier quelque chose. Tout le monde me dit que c'est formidable. Je n'ai jamais regardé.
Mais parce que tu es à l'after à ce moment-là?
Oui, ça va, il y a des replays, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à me mettre dedans. Alors qu'avec toi, il y a Jean-Pierre, que je connais très bien.
Jean-Pierre Nadir.
Grand voyagiste, au même titre que notre ami Jeff Rial, de Voyageurs du Monde.
Pizza 30 avant. C'était Pizza 30, c'est lui qui a ramené les pizzas en France, hein, pratiquement.
Nadir, c'est Pizza 30 ?
Pizza 30, oui, effectivement.
Ah, c'est le tout premier, livraison de pizza à domicile.
Oui, ouais, absolument.
Ah, d'accord. Non, mais je ne connais pas qui va être mon associé, c'est vrai. Tout le monde me dit c'est bien, j'imagine que tu es heureux de faire cette émission. Dont tout le monde me dit beaucoup de bien. Mais si tu es là, c'est aussi parce que tu adores le poker, que tu as même été joueur, pro pendant deux ans. Hein.
Oui, j'ai fait que ça pendant deux ans.
2007-2009 à peu près. Ça fait que ça, avec quelques résultats quand même, une table finale sur un EPT et un peu plus de 500 000 dollars de gains, c'est ça?
Oui, exact.
Plus les 600.
Ça commence à chiffrer, hein. C'est plus que Moundir en 10 ans.
Oui, mais alors attends, d'abord. Non, mais celui-là, alors, tu imagines ce qu'il faut subir à chaque fois pour venir le dimanche.
Il l'a fait tout le temps, non?
Ouais, non, mais écoute, il a jamais passé un D1, mais il va.
Je peux pas le faire tout le temps, parce qu'il faut qu'on ait des gens qui aient vraiment gagné beaucoup d'argent. Okay, Moundir, il commence à monter un peu, quoi.
Ah oui.
T'en as combien maintenant?
Bon, je dois être à 160. J'avais pas le même volume.
160
000, ouais.
en 10 ans.
Pas le même volume, je dois faire 20 tournois par an, donc c'est pas.
C'est
déjà beaucoup.
Il n'y a pas de petit profit.
Ouais. Et toi, tu as fait combien de D2 par exemple ?
Moi, jamais. Jamais, parce que je ne fais pas des tournois avec D1, D2. Moi, mon plus gros gain, c'est quoi ?
En Italie ?
800 balles.
C'est en Italie ? Ouais, c'est un peu plus, ouais, deux fois, ouais, t'as gagné.
Pas grand-chose, mais bon, écoute.
Qu'est-ce que tu veux faire ?
On fait ce qu'on peut. Et donc, tu es également, je vais forcément me tromper quand je vais essayer de le dire, parce que c'est des domaines que je ne maîtrise pas.
Fondateur de Ledger.
Voilà. Et alors, c'est quoi, Moundia ? Dis-moi.
Ledger, c'est justement un portefeuille de crypto-monnaie. Tu m'arrêtes, Eric, si je me trompe, avec un système. Je vais le réduire justement comme une clé USB, voilà, et qui protège à fond tes crypto. Voilà.
Ouais, c'est leader mondial des solutions de sécurité pour crypto actifs basées sur de la carte à puce.
Voilà, tu vois, parce qu'il y a eu énormément d'arnaques, hein, tu sais, Daniel, là-dedans, il y a eu énormément d'arnaques, des gens qui se sont fait attraper. Puis moi, j'en connais quelques-uns qui.
Peut-être vous laisser, en fait.
Hein?
C'est des coffres-forts. Si t'as de l'or, t'achètes un coffre-fort.
Voilà, là, c'est déjà plus clair. Voilà,
si t'as des cryptos, t'achètes un Ledger, voilà, point. C'est tout ce que t'as besoin de comprendre.
T'as pas vu la pub sur Twitter?
Dans crypto, faut me parler comme un teubé.
C'est-à-dire?
Bah, obligé de le faire.
Voilà. Voilà. Là, il vient de le faire.
Voilà. Ouais. D'accord, ok.
Moi, dans
d'accord.
ces cas-là, tu me parles comme un débile et c'est d'accord. bon, j'adhère à peu près.
Mais toi qui es à fond sur Twitter, tu verras, il y a beaucoup de pubs sur Ledger et compagnie. T'as juste à cliquer et tu verras qu'il y a.
Ah non, moi, je clique plus rien du tout sur mon téléphone. Ah ouais, j'ai peur des pièges.
C'est-à-dire tirer Twitter, ils l'ont ramené.
À fond sur Twitter, on peut pas dire que je sois réellement à fond sur Twitter.
Ah, bah, t'as quand même un edge là-dedans, quand même, non?
Un edge parce que j'ai beaucoup de followers, mais on peut pas dire que je sache parfaitement bien utiliser tous les outils et les réseaux sociaux. Ouais, et Eric, effectivement, donc on a dit tout ce que tu faisais et ta carrière dans le poker et ce pourquoi t'es là, c'est le lien que tu as souvent fait entre le poker et ton activité professionnelle. Est-ce que l'un a apporté à l'autre et ce lien-là dont on parle très souvent, on a parfois du mal à comprendre. Concrètement, ce que ça signifie. Alors, je pense que beaucoup de gens ont vu, en tout cas moi, avant que tu viennes ici, ta petite vidéo sur Insta,
okay,
où tu expliques à quel point le lien poker-business. Et c'est vrai que ce que tu racontes est très intéressant. Mais après, concrètement, quand tu te retrouves, je sais pas moi, à dealer un business, alors j'essayais de t'imaginer, donc t'es à une table avec 5 personnes qui font le même métier que toi.
Ah bah, je vais te donner
un
exemple.
En quoi le poker, à ce moment-là, va réellement te servir?
Je vais te donner un exemple. On est en 2016, c'est le deuxième tour de table de financement de Ledger. On a besoin de 5 millions pour continuer. Wow. À l'époque, Ledger, on vendait donc des coffres-forts digitaux, mais ça marchait pas très bien parce que le Bitcoin était à un prix assez faible. Donc, on avait vraiment des difficultés. On avait vu 50 investisseurs, on trouvait pas. Et puis finalement, on réussit à en trouver un avec qui s'intéresse.
Un mais potentiel c'est vraiment que tu dois séduire.
Voilà, que je dois séduire. Ouais. Alors, on est plus là à la fin, c'est-à-dire qu'on l'a déjà séduit, normalement. On cherche à valoriser, en fait, à ce qu'on attend, c'est qu'il investisse 2 millions. Et après, une fois qu'il y en a, on peut trouver les trois qui manquent, à une valorisation de l'entreprise de 19 millions. C'était ce qu'on s'était dit depuis le début. On n'avait jamais trop discuté la valo. Et là, c'était un peu le dernier call. On avait discuté pendant 2 heures sur tous les détails de l'investissement, etc. On était vraiment en dernière ligne droite. Il fallait vraiment qu'on deal, qu'on close, parce que sinon, on n'avait pas de solution.
Boucle ces 2 millions que tu voulais. Voilà.
Et le call va se terminer. Et là, le directeur financier l'investisseur en face de la boîte, il dit bon, ok, très bien. Alors par contre, il y a un truc qu'il faut qu'on revoie, c'est la valo. 19 millions, ça nous va pas. Et là, à ce moment-là, je me suis revu à une table de poker. Je me suis revu en fait à dire que je devais jouer mon tournoi quelque part. C'est marrant parce que j'ai eu un petit peu ce flash. Et
à ce moment-là, vous étiez quasiment en position de check.
Bah là,
on
était en train de conclure. Donc c'était la dernière ligne droite du deal. Et là, il met sur la table, en fait. Et là, c'est plus de la négociation, en quelque sorte. En fait, il remet un sujet sur la table. Et là, je dis, écoutez, c'est juste pas possible. Là, les 19 millions, j'y touche pas. Il y a pas de, on reste à 19 millions. Si vous voulez parler de la valo et la rediscuter, moi, je raccroche tout de suite. Donc là, c'est vraiment faire tapis. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le check raise à tapis. Parce que là, s'il raccrochait ou s'il le prenait mal.
Tu perdais tout.
Je perdais tout. Mais, alors on va me dire, mais voilà, t'es malade.
Et pourquoi t'as pensé que t'allais tout perdre au moment où t'as dit ça?
En fait, je pourrais dire que pour être prêt à gagner, il faut être prêt à tout perdre.
Ouais.
C'est vrai, c'est pas faux. Mais en même temps, je savais que, vu qu'ils ont amené ce sujet de discussion tout à la fin, sans jamais avoir mentionné auparavant ou discuté de la valo, je me suis dit, il est en train de bluffer, en fait. Je me suis dit, il bluffe. L'histoire qu'il me raconte.
Te dire tout ça.
Mais il a senti le ride, quoi.
Je l'ai senti. Je me le suis pas dit, je pense, de manière consciente. Mais clairement, en poker, on dit toujours qu'on raconte une histoire.
Totalement.
En fait, hein, entre la rivière
et. Le river. Ouais.
Exactement. Et là, je me suis dit, il me raconte une histoire qui a pas de sens. Si vraiment c'était important, la Valo, il m'en aurait parlé avant. On aurait eu des discussions avant. Et là, le fait qu'il me le sorte comme ça, juste à la fin, à la dernière seconde, c'est un bluff. Et donc, boum, je lui ai fait tapis et il a insta-fold.
Voilà. C'est énorme. Et donc, ça a été validé et ça a été validé.
Donc, et voilà, et on l'a fait le deal et après, voilà, tout le monde est content. Mais c'était un moment clé dans une négociation où vraiment, je me suis retrouvé mentalement à une table de poker et j'ai fait ce parallèle. Là, clairement.
Mais Eric, ce que tu dis là est très intéressant, mais j'ai envie de te dire, tous les gens qui font ton métier, enfin qui font des affaires, on va dire, ils se retrouvent face à cette situation-là. Tous n'ont pas été joueurs de poker avant. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre dans cette situation-là, sans la connaissance que tu as du poker et de ce genre de relations très stressantes où il faut prendre des décisions importantes, quelqu'un aurait pu se planter ?
Je sais pas, peut-être que quelqu'un
t'a apporté un. Non,
ça m'a donné, je pense, la force et le recul nécessaire pour oser en fait faire un move, parce que le poker m'a énormément appris sur. Sur l'homme, hein, sur la manière dont il réagit, sur émotions. Comprendre, voilà, les émotions, puis comprendre en fait l'histoire. Et clairement, finalement, je me suis senti tellement en position de force parce que je savais qu'il bluffait, que j'ai pu faire ça. Et c'est cette expérience qui m'a été utile. Et je sais pas si quelqu'un d'autre, si l'erreur, ça aurait été d'ouvrir la porte à la négo. En
fait, alors, si on va plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux travailler avec toi. Je viens de voir parce que t'offres potentiellement un emploi dans ta boîte. Si je te dis, moi, je joue au poker, j'adore le poker, je sais bien jouer au poker, c'est un plus pour moi sur mon CV? Pour toi?
Pourquoi pas? En tout cas, ce sera pas négatif, hein, parce qu'il y en a certains qui, certains qui le verront de façon négative, peut-être, mais non.
Et toi, tu verras ça comme un atout.
Oui, oui.
Un collaborateur, quelqu'un qui veut bosser avec toi, tu diras, ce gars-là, s'il a joué un bon niveau de poker, forcément.
Ouais, surtout s'il a joué en live.
Ce sera un plus,
parce que bon, il y a aussi plein de choses qu'on peut apprendre online, mais je pense qu'en live, il y a la détection des signaux faibles, il y a la capacité de pouvoir lire,
et donc ça
donne effectivement une sensibilité supplémentaire. Alors après, ça va dépendre pour quel type de job, quel type de poste, mais oui, c'est quelque chose que je valorise, et pour moi, il est évident que le poker, c'est l'école de la vie, l'école du business, l'école de la négociation, et que j'ai énormément appris. Et que j'ai employé finalement des recettes de poker, peut-être de manière inconsciente, assez souvent dans ma vie d'affaires.
Tu l'as déjà dit ça dans l'émission qui va être mon associé?
Non, mais ça se voit.
T'as déjà parlé de ça ou pas?
Non, jamais, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion vraiment de parler de poker.
Non, mais bizarrement, moi, quand t'as annoncé sur une vidéo qui est vue par des millions de personnes que tu étais un ancien joueur pro, j'ai commencé à faire le parallèle avec ta vidéo et le... Excuse-moi de parler comme ça, mais le personnage justement de qui va être mon associé, bizarrement, quand le mec il voit justement la personne qui vient défendre son projet, il l'attaque comme un mec à table, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les questions sont très rapides, il analyse tout de suite. Quand ça parle de chiffres, ça calcule de suite et compagnie. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas le temps à la personne de lui laisser, si tu veux, une marge de manœuvre. Donc, il sait que si le coup est bon, il va y aller. S'il est pas bon, il va folder.
Parce que l'émission, le concept de qui veut être mon associé, ce sont des gens qui veulent monter une entreprise.
C'est des entrepreneurs.
Qui ont besoin de financement, qui ont besoin de lever de l'oseille.
Ils viennent pitcher devant nous.
Ils viennent pitcher devant vous et vous dites, en gros, vous allez les aider à...
Oui ou non.
L'idée est bonne et ça vaut le coup qu'on mette de l'oseille dedans.
Voilà, et on investit vraiment notre argent. Donc là, c'est la même...
Ah, mais c'est vous, c'est votre blé à vous?
Ah, bien sûr. Bien sûr. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et donc, on est finalement dans une situation de stress. Ouais, écoute.
Tu vas faire la queue comme tout le monde.
Mais c'est vrai que c'est assez similaire parce qu'on doit prendre des décisions financières assez rapidement parce que c'est réel, c'est filmé, ça dure une heure et c'est monté en 10 minutes. Mais à la fin, on est quand même dans un environnement, on est sous pression. Et le soir, après le tournage, quand je rentre à l'hôtel pour dormir, je suis lessivé comme après une bonne journée de poker. C'est-à-dire que ça vampirise vraiment complètement toute l'énergie.
T'as joué au poker entre 2007 et 2009. Qu'est-ce qui t'a attiré la première fois dans ce jeu-là?
Alors c'est un hasard. J'étais à Riga en Lettonie. J'allais souvent dans les casinos. Il y a beaucoup de casinos, discothèques, donc c'est plutôt sympa.
Que faisais-tu à Riga en Lettonie ?
Alors c'est une longue histoire, mais en tout cas j'étais en train de développer un hôtel parce qu'avant j'étais en Roumanie, je m'ennuie en Roumanie, donc je suis allé en Lettonie. Voilà, ça répond pas.
Roumanie, non, parce qu'après on a envie de se dire mais qu'est-ce que tu foutais en Roumanie ?
Ouais, exactement. Mais,
c'est sympa, je suis déjà allé moi.
Et donc je suis allé dans le casino, jouais plutôt au blackjack, des trucs comme ça. Et puis un jour je m'assois
une table. Très intéressant ça.
Ouais, ouais.
Tout le monde dirait joue bien. Blackjack.
Non, mais il raconte des conneries.
Le problème, c'est qu'à 12, il tire pas.
Mais il dit qu'il raconte des conneries.
Ça dépend sûr que j'ai en face.
Bien sûr que je tire.
À lui, en face, il y a un croupier. À 12, il tire pas. Mais bref, parenthèse refermée.
Toi, tu joues pas, toi.
Voilà.
Moi, j'ai essayé de jouer, mais j'avais un conseiller qui.
Il dit pas de conneries, putain, mais c'est incroyable.
Et donc, je m'assois à une table de poker. Je connaissais pas les règles. J'apprends les règles en jouant. C'était un tournoi avec une centaine de joueurs. Et je remporte le tournoi. Alors, inutile de dire la chance que j'ai eue, parce que je faisais n'importe quoi, et je comprenais pas.
Ah oui?
Et je savais, voilà. Et donc, je remporte.
Tu avais des bases?
Bah, je comprenais les cartes, et on apprend assez vite, le poker. Ouais. En
5 minutes pour apprendre, et voilà, c'est pour ça. Ouais.
Mais bon, j'avais aucune notion d'equity, enfin, de range, de rien.
D'accord.
Donc, je faisais un peu n'importe quoi, en réalité. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai gagné, et je me suis dit, waouh, c'est super, c'est génial.
C'est facile, en plus.
Je suis trop fort. Ça m'a intrigué, je lui suis retourné. Bon, je me suis fait complètement défoncer pendant longtemps. mais j'ai voulu apprendre, et donc, j'ai acheté plein de bouquins, j'ai lu tout ce qu'il fallait, et j'ai commencé vraiment de manière assez obsessionnelle à travailler mon jeu. Ouais. Donc, c'est devenu pour moi une vraie passion.
Et alors pourquoi t'as arrêté ? 2 ans qui en plus ont été.
Deux ans pas trop mal. J'ai eu des résultats corrects.
Quel résultat, attends, quand même. Finale de PT.
Ça s'est bien passé. En plus on voyage, enfin c'est sympa. Par contre j'ai arrêté parce que à un moment je me suis rendu compte que le poker c'était trop d'émotions négatives, que la violence en fait de perdre était trop dure, que j'avais du mal à gérer ces émotions et en plus je voulais pas dire à mes enfants que je jouais aux cartes. J'avais besoin de reconstruire quelque chose. J'avais besoin de construire des fondations. Et des fondations, en fait, jouer au poker, on remet sa tâche le lendemain, on recommence. C'est un éternel recommencement, en fait.
Exactement.
Et il n'y a pas de construction. Certes, on peut se construire une carrière, mais moi, je n'avais pas de sponsor. Enfin, je n'étais pas dans cet univers vraiment de me construire une carrière vraiment professionnelle. Et donc, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit bon bah c'est terminé, je rentre en France. Enfin tout s'est un peu passé en même temps.
Dans ce que tu décris, on a presque le sentiment qu'il y avait une forme de peur.
Non, de souffrance. Pas la peur. Non, la peur non, mais la souffrance oui. C'est-à-dire que je me rappelle des tournois, je me suis envoyé en l'air en phase finale et je faisais des conneries parce que j'ai fait une erreur. Enfin peu importe. Mais je m'en voulais tellement que pendant 24 heures, en fait, j'étais mal, comme si j'avais eu un accident de bagnole. Et c'était trop dur. Et je me suis dit, mais c'est pas possible.
Et pourtant, t'avais pas, en ces 2 ans-là, avec les résultats que t'avais, t'avais pas cultivé cette forme de résilience qui est inhérente au poker?
Non, un petit peu, mais c'est trop dur. C'est trop dur, en fait. Surtout qu'on est un compétiteur et que c'est tellement rare d'arriver en phase finale, quand même. Hein, il faut en faire des tournois pour arriver en phase finale d'un grand truc.
Du volet, moi.
Et on touche, on se dit, bah voilà, là, en fait, on peut aller toucher 1 million, on peut aller toucher vraiment des gros gains. Et quand on fait une connerie à ce moment-là, on s'en veut tellement que c'est très difficile à gérer. Et probablement, j'ai pas réussi à gérer. Et ma réaction, ça a été de me dire, j'arrête.
Okay. Alors, tu arrêtes parce que t'es en souffrance.
Ouais.
Mais néanmoins, toute l'expérience acquise dans ces 2 ans, tu projettes tout ça dans ta vie professionnelle.
Alors, à ce moment-là, je me rends pas compte que ça me sera utile pour le futur. Donc, je reviens plutôt à mes premiers amours, c'est l'entrepreneuriat, la tech, etc. Parce que c'était vraiment plutôt ce que je faisais avant de faire du poker.
C'était un vrai métier, ça.
Ouais. À la base, moi, je suis ingénieur en microélectronique. J'avais fait plusieurs startups. J'en avais vendu pour plusieurs millions avant. Donc, je faisais vraiment des. Mon truc, c'est jamais.
Tu avais de l'argent avant de commencer le poker.
Ah oui, bien sûr.
Donc, ça veut dire que la dimension argent, quand tu as joué ces 2 années de poker, elle était. Pas négligeable pour toi, mais t'avais de l'argent,
je ne dépendais pas de cela, donc c'était plus l'aspect de compétition, les points, le classement.
C'était plus
ça ce que j'allais chercher. L'argent, évidemment, c'était une conséquence heureuse, mais j'allais pas chercher de l'argent. J'étais pas là pour gagner ma vie. J'étais déjà millionnaire en réalité.
Ça, c'est déjà une donnée fondamentale par rapport à plein de gens qui nous écoutent et qui jouent des tournois où l'argent est un moteur ou de handicap.
Pardonne-moi, mais Eric a quand même le profil de Karl Chapé-Gassien. Qu'on connaît bien, qui est un gros entrepreneur, enfin en tout cas qui est le numéro 1 de la crypto France, très gros trader de crypto, qui est le numéro 1.
Qui a fait un énorme résultat.
Qui joue extrêmement cher. Et il était à ta place la dernière fois et on lui expliquait est-ce que contrairement à un pro, donc par exemple par un Bertrand ou un David Iquita et compagnie, est-ce que tu as la pression de l'argent ? Tu sais ce qu'il nous a sorti ?
Non.
Il a dit moi si je dois mettre 400 000 dollars dans le pot, je les mets, ça me ferait rien du tout. Et donc, c'est vrai que la dimension du fait que le mec, bon, il met 400 000, ce qui n'est pas le cas d'un pro. Un pro ne peut pas faire des 100 000 ou des 250 000, voire même des 50 000 dollars.
Mais la différence, c'est que Karl, on sent chez
le
lui.
Le mec est détaché.
Ouais, mais pas. Moi, ce que je sens chez lui, peut-être que je me trompe, c'est un besoin d'adrénaline dans sa vie. Que les affaires lui ont apporté beaucoup d'argent et une sorte de besoin d'adrénaline. Je ne sais pas si Eric
a
ce besoin-là. Mais, ouais, mais le fait qu'il soit parti, la souffrance qu'il décrit, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as encore avancé dans ta vie professionnelle? J'imagine que tu es largement à l'abri du besoin. Est-ce que l'adrénaline d'aller jouer à un high-roller à 100 000 ou à 200 000...
Non, ça ne m'intéresse pas. Ah, je cherchais l'adrénaline était présente, mais je...
Parce que quand tu as des émotions fortes, comme il dit, quand il dit « ouais, j'avais l'impression d'avoir fait un accident ouais. », quand tu as l'impression d'avoir fait un accident, c'est que l'émotion est tellement au summum, ça a atteint un paroxysme.
Non, mais il y en a qui ont besoin de ça, et
moi, c'était trop,
ait besoin de ça.
C'était trop, je pense que les émotions étaient trop importantes et je n'ai pas réussi à les gérer.
Alors que tu dis que le poker, tu as appris à gérer tes émotions.
Oui, parce que
c'est une forme de paradoxe.
C'est vrai, mais ça a appris à gérer. En fait, je pense que ça a appris à gérer mon stress, ma résilience. Hein, on en parlait tout à l'heure, parce que quand on est entrepreneur, il y a un ascenseur émotionnel, il y a des moments très difficiles. Et j'ai appris, en fait, effectivement, à pas m'énerver, à relativiser, à prendre du recul, parce que quand on prend des coups, je me suis pris des coups dans le poker, évidemment. Eh bien, je pense que je me suis renforcé et ça m'a aidé. C'est juste que j'avais une limite peut-être à ce que j'étais capable d'encaisser, ou ce que j'avais envie d'encaisser en réalité.
Si demain il y a un producteur qui t'approche et qui te dit, bah tiens, j'ai une super émission, qui veut être mon stacker, tu.
Alors non, ça je le ferai pas.
Parce qu'il y a Daniel qui a dit qu'il avait un projet là-dessus.
En gros, c'est un peu Moundir qui a besoin d'être stacker.
Pas du tout, Moundir comme celui-là.
Je le ferai pas.
Non, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a actuellement des émissions sur le poker qui sont en train de se préparer, ça commence à se démocratiser beaucoup, ça passe en télé. C'est vrai que demain, il pourrait y avoir.
Eric, je le disais sous forme de blague, mais hors blague, il y a plein de gens qui font des affaires comme toi et qui, parfois sans le dire ou parfois beaucoup. Le disent, aiment par procuration miser sur un joueur qu'ils aiment bien, avec qui ils ont une affinité. Ils le stack, ils font le tournoi, eux, ils les suivent un peu de loin comme ça.
Ça m'intéresse absolument pas.
Mais tu m'as entendu, évidemment.
Non, mais
je connais.
Évidemment, je vois très bien ce que c'est. J'avais fait ça à l'époque de la Team Sénat, que j'avais Matic, je faisais. Bref. Mais c'était pas du tout. Enfin, c'est pas du tout quelque chose que je recherche. Et c'est pas une adrénaline que je vais rechercher. En fait, je fais des choses par procuration en investissant dans des entreprises, des entrepreneurs, et on va vivre au jour le jour cette aventure. Et donc là, oui, il y a une forme d'adrénaline, il y a une forme d'aventure par procuration. Mais ça, c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup plus. On n'est pas dans le staking, on n'est pas dans le poker.
Et les aventures entrepreneuriales, tu les suis après une fois que tu as écouté la personne, qu'elle t'a convaincu du projet, que tu lui as trouvé le moyen de financer son projet, après tu te retires.
Mais c'est son
non, c'est le début. C'est-à-dire que c'est le début de l'aventure. En fait, tout commence au moment où on dit oui. Et après, c'est parti pour plusieurs années de travail et d'échanges. Et ça peut durer très longtemps, puisque ça s'arrêtera le jour où soit l'entreprise va péricliter, soit va être revendue. Et ça, on est sur des temps très longs, de plusieurs années.
Et là, en revanche, là, le plaisir, il est toujours intact.
Oui,
et là,
parce qu'il s'agit de partager, en fait, son expérience. Il s'agit d'accompagner des entrepreneurs dans des problématiques qu'on a déjà connues et sur lesquelles on peut être utile.
Le carnet d'adresse.
C'est, voilà. Et en fait, c'est toujours, on est plus dans la transmission, en fait, qu'autre chose. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui m'intéresse.
Tu vois, Daniel, je te l'ai dit. Faut que tu sois entrepreneur. Donc, tu passes à la crypto, garçon.
J'ai pas mal de projets, je vais faire la queue. Si Eric veut pas me recevoir, je vais voir Jean-Pierre.
Non, parce que, c'est pas les petites parties privées que tu fais, Rialo Poker Tour.
Hors poker.
Faudrait que tu viennes un de ces quatre faire le Rialo Poker Tour, Eric. C'est très intéressant quand tu vois Daniel jouer.
Oui, j'aime bien.
Ouais, c'est un fiche.
J'aime bien. Oui, d'ailleurs Moundir peut témoigner.
Ouais, il m'a horrifié avec RC5.
Généralement, les gens qui viennent à la maison, ils repartent.
Ils sont déstabilisés. Non, mais ça, c'est une bonne. C'est une bonne manière de jouer aussi, hein, de faire n'importe quoi.
Illisible.
En l'occurrence, j'en suis pas là encore. On va marquer une petite pause.
Ouais,
c'est pour faire
un peu de pub.
La deuxième partie dans un instant. À tout de suite.
À tout de suite.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Moundir.
Deuxième partie du RMC Poker Show. On est là avec Moundir. On est en studio avec l'un de nos invités ce soir, Eric Larchevêque, entrepreneur, fondateur de Ledger. Portefeuille de...
Un gros coffre-fort pour la crypto et pour pas avoir d'histoire, les amis, venez chez Ledger pour être bien sécurisé, les copains.
Exactement.
On n'a pas dit que c'était une boîte qui était valorisée à
1,5 milliard.
Ah,
c'est ça. 1,5 milliard. Mmh. Ouais.
pas mal.
C'est plutôt sympa. C'est une bonne progression, je dirais.
Notre deuxième invité dans le RMC Poker Show ce soir, c'est Alexandre Tarantino, qui, je crois, est avec nous. Voilà, bah, c'est le cousin. On accueille le cousin.
On lui a jamais fait, tu sais.
Quand on a un nom de vedette.
Salut Eric, salut Mounir, salut Daniel.
C'est toute la vie. C'est pour la vie. Et il faut pas renier les cousins en même temps, Alexandre.
Ah oui.
On a tous des cousins américains.
Ouais.
Welcome.
Bienvenue en tout cas dans les RMC Poker Show. Tu es cofondateur de Notser, cette team aux méthodes si particulières dont on a très souvent parlé dans le RMC Poker Show. Et cette team qui obtient souvent, très souvent des résultats avec ses joueurs. Et d'ailleurs, en ce moment, tu es en train de suivre la table finale de
Adrien Guillon.
Ah, de Notser Adrien Guillon, hein, en table finale du FPO 600. PMU, 57K on top, 730 joueurs.
C'est Annecy.
7 left.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et alors, et il est bien, il est comment?
Bah, il est chip leader.
Ah bah, tout simplement. Ouais.
Voilà. Normal, il doit le remporter.
Et Adrien, il en voit depuis un petit moment.
Oui, je veux dire, il joue pas tight, hein. Attention. Hein.
Adrien, ça hyper feu bien. Hein. On a aussi Audrey sur le 300, hein, qui est ITM. Ça marche très bien, ce FPO.
Très très bien tout ça. Dis-moi, j'ai une question à te poser avant le poker.
D'André.
Quand on dit gestionnaire d'un fonds de crypto, c'est quoi un gestionnaire d'un fonds de crypto?
Un gestionnaire crypto, en fait, je m'occupe de fonds de plusieurs personnes, en fait, et je gère leur argent dans un fonds en crypto-monnaie. En fait, je trade sur les crypto-monnaies dans un fonds qui est commun et à la fin, je leur verse une part, ils me reversent une part des bénéfices et moi, je leur laisse la majorité des parts.
D'accord. C'est incroyable dans le poker, ce lien qui s'est construit depuis une dizaine d'années maintenant entre poker et crypto-monnaie. Évidemment, il y a pas mal de joueurs qui sont dedans depuis des années, qu'on n'ont pas tout de suite parlé parce que c'était un domaine qui était un peu flou et qu'on maîtrisait pas du tout. Et je sais que toi, ça te fascine beaucoup, Mounir.
Ah, moi, ça me fascine beaucoup, surtout que, Eric, tiens-toi un truc, c'est que tu sais que lorsque Alexandre savait que tu venais, il était comme un fou. Parce qu'il est très très fan. Est-ce que je me trompe, Alexandre?
Non, tu te trompes pas.
Voilà, il est là, il est à toi. Vas-y, tu peux lui poser des questions.
Ah, c'est là qu'on vous laisse parce que vous êtes dans le même domaine.
Non, mais moi je kiffe.
Allez, parlez aux Aïe, faites-moi un peu rêver là.
j'ai envie de dire merci à Eric parce que grâce à Ledger, il a sauvé mes fonds de FTX, une partie de mes fonds.
Ah oui.
Ouais, bravo. C'est bien, il fallait avoir le bon réflexe parce que tout le monde ne l'avait pas. Et des fois, même si les gens savent qu'il ne faut pas laisser ces cryptos sur tes échanges, effectivement, c'est le but de Ledger de les avoir avec soi.
Et comment il les a sauvés? Parce qu'il les a mis dans ton coffre-fort?
Ouais, c'est ça. En fait, il ne les a pas laissés dans
ton compte.
Et
oui. D'ailleurs, Carl Gatien avait perdu pratiquement plus de 200 millions. Plus de 200 millions de crypto lorsque FTX est barré. Il nous l'avait dit, il était justement à Rozvadov. Il jouait un 100 000. Il voit l'annonce sur le truc. Il dit, il y a une espèce d'éclipse qui est arrivée et je suis parti.
Ouais, parce que quand tu perds 200 millions, en général, c'est difficile de s'en remettre, non?
Ah, bah oui, ça c'est.
Ça doit, je ne sais pas. Je ne peux pas témoigner.
Tu vois, il nous l'a dit.
Toi non plus, Mounir, tu peux pas témoigner.
Bah, moi, j'étais pas avec lui, mais il nous l'a dit, donc pour le coup.
Pas savoir ce que ça fait, perdre 200 millions, non?
Non.
Non, même pas.
Bon, on va pas savoir.
Non.
Alexandre Tarantino, si t'es avec nous, c'est aussi pour parler de ce papier dans Live Poker. Comment choisir son format en fonction de son profil financier? Papier qu'on avait trouvé très intéressant avec Mundir et oui. On avait très envie que tu nous parles de ça, de l'initiative d'abord de parler de ça et ensuite concrètement de ce qui structure ton idée à ce sujet.
Ben, l'idée c'est que le poker c'est avant tout un jeu d'argent dans lequel l'argent est justement le carburant et ça devrait être la valeur de considération numéro un à prendre en compte. Avant de se lancer dans un projet poker et même avant de se lancer dans un format parce que tous les formats ont des caractéristiques très très spécifiques et la majorité des joueurs sont pas au courant. Il y a des joueurs qui peuvent être tentés de suivre certains formats en n'ayant pas connaissance justement de tous ces risques financiers et c'est des formats en fait qui mentalement ne pourront pas supporter. Par exemple tout à l'heure Eric il a dit qu'au poker, qu'il avait quitté le poker parce que mentalement c'était extrêmement difficile. Là, à savoir que si par exemple il souhaiterait se remettre ou il recommencerait une carrière poker, il pourrait savoir que par exemple les spins c'est quelque chose d'extrêmement violent et que le format le plus simple mentalement, ce serait le cash game. Et bah, peut-être qu'il reconsidérerait le fait de jouer certains formats plutôt qu'un autre, si au départ, en fait, il avait eu cette information-là.
Ouais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les spins. Hein. Il n'y avait pas tout ce qui est spin, expresso.
Oui, ça, c'est les formats rapides, vous voulez dire.
Ultra rapide, ultra. Les expressos, en gros, c'est 3 à table. Et donc, quand tu mises 1 euro, tu peux gagner 100 000. Quand tu mets
100 euros,
c'est la loterie. Ouais, c'est comme un tac au tac. Voilà.
Et Alexandre, on est d'accord que tes explications valent même pour un joueur amateur qui entre dans un casino, qui doit s'inscrire à un tournoi pour choisir. Ça va du format de jeu au montant du buy-in. C'est tout ça que tu expliques. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est, en fait, c'est à prendre en considération pour absolument tout le monde, en fait, qu'on soit amateur, perdant, gagnant. En fait, c'est. On se fait ce plan financier. Pour faire ce plan financier, bah, faut déjà être au courant, en fait, de toutes les spécificités de format. Et, que ce soit aussi live ou online, quoi. Le but, c'est d'atteindre un ROI suffisamment fort dans les formats, en fait, pour casser au maximum la variance sur le court, moyen, long terme.
Oui, c'est d'où justement le fait d'étudier énormément. De toute façon, sur les variantes que tu parles et tout ça, c'est vrai que c'est énormément de boulot. Je veux dire, c'est pas quelqu'un comme ça qui va se perdre sur les spins ou les expressos. Bon, moi j'étudie sur les expressos, mais c'est vrai que c'est trop violent. C'est extrêmement violent.
Ah ouais, c'est extrêmement violent et on peut pas savoir à quel point c'est violent si on n'a pas étudié le format. Par exemple, je donne l'exemple qu'en spin, on peut prendre un downswing de 100 buy-in juste sur une journée de session, quoi. Si on n'est pas au courant que c'est possible, le joueur qui va prendre un tel downswing, en fait, va se demander, en fait, c'est s'il a pas, est-ce qu'il a vraiment déchaté ou est-ce que finalement il est pas au niveau parce que 100 buy-in, ça lui paraît énormissime, voire impossible, alors qu'en fait, c'est extrêmement courant. Donc il a absolument besoin de ces informations-là.
Mais et finalement, je rappelle un petit peu ce qui était le titre de l'article, comment choisir son format en fonction de son profil financier. C'est aussi des questions qui sont très très basiques. C'est le tournoi dans lequel on s'inscrit, avec la question de base qui est quelle est la somme que je suis prêt à perdre. Ça vaut aussi bien pour le cash game que pour un tournoi. C'est juste la question qui fait que tu vas être à l'aise à la table où tu seras assis et où tu n'auras pas l'impression d'être en danger et que ça puisse ensuite se transformer en souffrance comme l'évoquait tout à l'heure Eric.
Oui,
bah, ou à la limite, ça, tu veux dire que c'est une question qui est trop basique, ça?
Bah, en fait, c'est la question qu'on est obligé de se poser parce que dès l'instant qu'on va être impacté dans un swing financier, forcément, derrière, ça va avoir des conséquences sur notre niveau de jeu, sur nos routines, sur notre mental, et ça, faut réussir à définir son stop loss financier et son stop loss mental pour pouvoir se permettre à jouer dans de bonnes conditions, parce que quand son jeu se met à se dégrader, bah forcément on perd en ROI. Donc si on perd en ROI, on peut passer d'un joueur gagnant à perdant ou joueur moins gagnant, et on va forcément augmenter la variance, et puis on rentre dans un cercle vicieux où, en fait, bah, c'est là où que le joueur peut broke, parce qu'en fait, il s'aperçoit même pas qu'il est rentré dans ce vortex.
Mais comment on détermine ça, finalement? Parce que là, tu me dis ça, moi, je suis un joueur amateur, je veux m'inscrire à des tournois, que ce soit en live, online. C'est quoi le mode d'emploi, finalement, pour répondre à ton étude et pour choisir mon format en fonction de mon profil financier? Et c'est alors, quoi, s'il y avait une liste de questions que je devais me poser?
Un joueur amateur, il va avoir énormément de mal parce qu'en fait, il n'a pas les data, il n'a pas l'expérience. Donc, cette expérience, il va devoir la récupérer des autres ou se mettre à un niveau où il est sûr de gagner pour lui accumuler cette expérience. Par exemple, si on parle des tournois ou des sit and go, on peut se mettre à étudier la population via ChartScope pour regarder comment tel type de joueur performe sur tel type de tournoi avec tel ROI, en fait, pour derrière définir, en fait, faire des probabilités et d'autres calcul statistique, mais l'amateur, lui, pourra pas le faire. Lui, l'amateur, tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de trouver les personnes qui ont la connaissance et se mettre à un niveau où il est quasiment sûr d'être gagnant et de récupérer la data par lui-même.
Et puis aussi, je pense qu'il y a la gestion de la bankroll, de dire en fonction du buy-in, d'avoir au moins 100 buy-in, par exemple. En fait, il y a des règles de base à pas transgresser pour être certain de pouvoir durer et pas s'asseoir. Si Tengo, on n'a que 3 buy-in, on en fait 3, on est wiped out. Donc, je pense que ça dépend voilà, aussi de ça, de sa
capacité. Après, il y a beaucoup de gens qui vont dans un tournoi, ils se disent, bon, bah, 200, bah, allez, je m'inscris à un tournoi à 200 balles ou à 500 balles. Ça va pas me saigner, ça remet pas ma vie en jeu.
Bah, c'est pour ça que c'est un amateur, là. Oui. Il fait ça pour le plaisir, pour autre chose, pour passer un week-end. Il réfléchit pas sur le long terme à se dire, bon, bah, je vois tous les mois.
On s'aperçoit qu'après à table, il est pas super à l'aise parce qu'il se dit, mine de rien, 200 balles, 500 balles, c'est quand même pas rien pour moi.
Ah bah, ça, c'est sûr.
À un moment, il y a toujours un soupçon de danger ou de j'ai pas envie de perdre, quoi.
Bah, dans le poker populaire amateur, oui. De toute façon, les gars qui sont vraiment dans l'amateurisme, dans le poker, enfin, dans les petits clubs et compagnie.
Je vous rappelle que déjà, 95% des gens qui nous écoutent sont des joueurs de poker amateur.
Absolument. Et c'est eux qui font 6 heures de route pour jouer un tournoi à 200 balles qu'on a pu voir. Et
c'est pour ça, justement, c'est à eux que j'aimerais qu'Alexandre aussi adresse des petits conseils sur comment choisir leur tournoi.
Mais tu peux aller sur notre serre, sur la team notre serre. Ils font aussi des vidéos, justement, pour les débutants. Si je me trompe pas, bien évidemment.
Pas forcément Alexandre. Débutants. On parle pas de débutants. On parle de tous ces joueurs qui écument les tournois, qui ont de plus en plus de succès, tous ces tournois qui font le plein, comme il y avait la semaine dernière au Palais des Congrès.
Un amateur qui fait un 500,
son tournoi.
C'est un débutant. Un amateur qui sait jouer au poker, mais qui n'a jamais fait un 500, quand il met un 500, il va se retrouver avec des top règles face.
Alors là, justement, c'est... Alexandre, je reviens à ça. La semaine dernière, il y a la grande finale du Winamax Poker Tour. Il y a combien il y a eu de tournois sur la semaine?
Beaucoup.
Bon, beaucoup. On va dire 10 tournois. Est-ce que un mec arrive et il se dit je dois faire mon choix dans ces tournois? Comment il doit axer sa réflexion sur le choix qu'il a à faire? Uniquement sur le buy-in, c'est 100 balles, c'est 200 balles, ou il doit faire attention à d'autres choses?
Déjà, en fait, il doit le faire avant de venir, ça.
Ouais.
Il doit aussi estimer le coût du déplacement, parce que si c'est pour se déplacer, pour jouer à 500 euros et avoir 200 euros de frais pour se loger, se déplacer, bon, l'espérance de gain va pas être folle, voire même négative. Donc déjà, en un, c'est quel est son budget? En fait, il y va pourquoi? Parce que si c'est un amateur total et qu'il y va pour dépenser ce budget, il considère que cet argent est perdu. C'est pas la même chose que s'il y va pour réellement gagner de l'argent. Donc s'il y va pour réellement gagner de l'argent, ben, en fait, il va devoir faire un calcul de budget sur combien de buy-in il doit faire pour au moins rentabiliser ses frais de déplacement, à quel ROI il doit avoir, ou est-ce que ce déplacement est rentable. Mais en général, bah, les gens dont on parle vont pas faire ça. En fait, ils y vont, ils se déplacent l'événement pour aller faire un 100 balles, peut-être le main. Donc en fait, ils y vont, ils doivent savoir qu'ils y vont avec une espérance de gain de toute façon qui va être négative, parce que jamais ils vont réussir à rattraper les frais de déplacement.
Bah justement, Alexandre, on a un exemple parfait, c'est Daniel, quoi. Tu vois, là, je pense que la question, elle est pour Daniel, parce que comme il se prépare pour Vegas, qui m'a envoyé une liste de séries de tournois, qui m'a envoyé où dans cette série-là, il y a des tournois à 3K, c'est le 3K 6 Max. J'ai dit, si toi tu fais un 3K 6 Max, je tire plus à 12. Voilà.
Voilà. Après, j'y serai avec ma bankroll. On pourra voir ensemble pour faire la grille. Hein.
Ah, bah, exactement. Alors, juste avant, Alexandre, on va parler de quelque chose de plus positif. Notre serre commence à grandir. Vous avez maintenant des ambassadeurs en France. Bravo. Il y en a qui font des belles performances. Notre serre va s'arrêter où exactement?
Déjà pour dire, hein, là, en ce moment même, là, on a nos ambassadeurs, ouais. Loïc, Adrien et Audrey qui sont sur la FPO, mais c'est pas tout, parce qu'en fait, il y a un WPT Cambodge en ce moment même.
Ah.
Où on a 3 joueurs dessus en MTT, plus 2 joueurs de cash game qui jouent la 5-10 et 10-25. Donc en ce moment même.
Ah bah écoute, c'est magnifique.
Donc déjà.
Alors Eric, notre serre, en fait, c'est un centre de formation qui est au Vietnam, hein, c'est bien ça?
Cambodge, non?
Au Cambodge, qui sont montés justement par 2 Français, où ils prennent des génies du poker, un peu comme un centre de formation, ouais, ou un centre de réathlétisation, où ils ne font que ça, où ils apprennent, ils font du sport.
Ils sont entraînés un peu comme dans Rambo 2.
C'est, ou 3. Les deux, c'est pareil. Ah, non, donc voilà, donc c'est vraiment des génies, dont un qui ont déjà gagné les championnats, les WSOP, le bracelet WSOP.
D'accord.
Top. Ouais. Top. Voilà.
Ouais, voilà. Une belle équipe avec, c'est vrai, des méthodes très poussées, très professionnelles.
Ouais.
Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu dans les RMC Poker Show.
Merci, Alex.
Il est parti, Alex.
C'est un appel en PCV. Ouais,
il est là.
Ça existe encore?
Et embrasse Adrien, ouais, pour nous.
Embrasse Adrien.
Attends, Adrien va gagner, donc oui, il sera encore avec nous la semaine prochaine, forcément. Il fait que gagner.
Oui.
À bientôt, Alex.
À bientôt, Alex.
À bientôt, merci.
Salut, voilà, champion.
On va faire un petit peu d'actu, tiens.
Oui.
Avant de clôturer cette deuxième partie du RMC Poker Show, évidemment dans la foulée, il y aura dans la tête d'un fiche. Pierre Camisa nous rejoindra.
Dans la tête d'un fiche.
Tu pars très vite demain ou je sais pas quand.
Mercredi, je m'envole au Marrakech Poker Open.
Ouais, Marrakech. Voilà. Où finalement,
t'as la chance.
Tu vas pas tarder à t'installer quand même à un moment.
Bah écoute, il va tellement plus là-bas. Ouais, si on en chatte un, pourquoi pas. Ceci dit, les baraques à Marrakech. C'est pas le prix du Havre. Hein.
Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce marathon?
L'high roller tout de suite. Donc l'high roller et le main event. Voilà, j'en fais deux. High roller, main event.
Main event à 1500 du 16 au 19 mars prochain.
Exactement.
Donc, tu nous raconteras toutes tes aventures.
Et oui, il y aura tous les top reg parisiens qui seront là-bas, comme d'hab, quoi. Et puis on va jouer.
Il y aura un plateau assez relevé, forcément, hein, comme toujours à Marseille.
C'est un peu comme la cuisine. Hein. Si tu veux que ça soit bon, il faut te mettre avec les meilleurs ingrédients, hein, comme ça. Ouais, hein.
Il faut aller au fourneau.
Voilà, mais je prendrai Ledger avec moi, même si j'ai pas de crypto, mais je prendrai quand même.
Tu poses sur la table.
Ouais, je pose sur la table, ils vont croire que je suis un chemin.
C'est un gris-gris.
Ouais. FPS
au stade Jean Bouin.
Stade Jean Bouin.
Et ça va être organisé au mois de juillet prochain.
C'est génial.
On parle sans arrêt de ces tournois qui marchent de plus en plus, qui rassemblent des gens et des lieux insolites pour organiser les tournois. Ça, j'avoue que ça l'est. D'ici là, on aura les organisateurs, évidemment, pour en parler. Du 15 au 23 juillet, en plein été.
C'est ça.
Ce sera peut-être pas là. Dommage, je serais bien allé faire un tour. Peut-être du 15 au 23,
on s'en va le 24 à Vegas. Je sais pas si tu t'en souviens.
Ouais, mais juin.
Oui, non mais on parle 24 juin.
Et quand on revient, il y a des chances effectivement. Donc c'est en collaboration avec le Club Circus. Il y aura un main event à 1100, un roller à 2200. Il va y avoir évidemment beaucoup de gens. Évidemment, on a envie de leur conseiller de faire très attention aux problèmes d'organisation parce que ces derniers temps à Paris, ça a été quand même très problématique. Tu suis un peu l'actualité, Eric, du poker, de ce qui se passe dans les tournois?
Absolument.
Par exemple, du succès, de l'engouement des tournois.
Non, je ne sais pas où ça en est.
Pas du tout.
Il y a une sorte de nouvel âge d'or du poker. Les tournois font le plein à tel point que l'EPT d'il y a 15 jours maintenant, c'était il y a 15 jours ou 3 semaines, au Hyatt Regency, les deux premières journées ont été en termes d'organisation. Tout comme le Winamax Poker Tour la semaine d'après au Palais des Congrès.
Un fiasco.
Terrible en termes d'orga. Ils ont mis 48 heures à retomber sur leurs pattes.
C'est-à-dire qu'il n'y avait personne.
Non, tellement il y avait du monde.
Trop de monde.
D'accord. Trop de monde, des inscriptions, des queues qui n'en finissaient plus.
Ça buguait,
une demande trop importante qui n'a pas pu être.
D'accord, ils ont été gérée. Surpris par le succès du nombre de.
Raz-de-marée, vraiment.
Attends mieux.
Si tu prenais 800 joueurs, il y en a 1700.
Oui, sauf que pour les organisateurs, pendant 24-48 heures, très compliqué.
Ouais, mais bon, c'est mieux la prochaine fois. Mais c'est bien de voir que ça. Que ça ne s'essouffle pas, qu'il y a un regain, au contraire.
Non, il y a effectivement un gros regain. Et c'est pour ça qu'on conseille aux organisateurs de ce FPS Paris à Jean Bouin, mais je pense qu'ils vont quand même tirer les enseignements de tout ce qui s'est passé.
Exactement, mais on pourrait te voir un de ces quatre à Vegas pendant les WSOP, Eric, si peut-être un jour.
Ça lui dit plus rien.
Ton temps.
Pour toi, pas, on va pas exclure.
Le main event.
Non, mais c'est sûr, c'est toujours un plaisir d'aller à Vegas, de jouer un peu. Et j'ai jamais dit que je jouerais plus jamais. Il faudrait qu'il y ait la bonne combinaison pour que je m'assoie à une table de poker, mais ce sera. Oui,
parce que tu sais plaisir. Que le vice-président des WSOP s'appelle Grégory Chauchon.
Oui,
un français.
Oui, tout à fait. Il m'a invité, il m'a parlé, il m'a dit de venir.
Ah, il est là le boss, hein. Il nous écoute, hein. Ah là là.
Et donc, ce serait avec plaisir. Il faut juste que je trouve le temps parce que.
Bon.
Mais en tout cas, c'est top, c'est chouette.
Alors, toujours dans l'actu, on le redit quand même, on en a parlé tout à l'heure. Mais donc, grande finale du Winamax Poker Tour.
Oui.
Le main, quasiment 3000 joueurs. Hein.
Bah ouais, facile.
2987 précisément.
Ouais, monstrueux, plus les réentries. Enfin, bah voilà quoi, tu vois. Donc c'est juste infernal.
La meilleure du team pro Wina, c'était Alexane.
Alexane Najos. Comment on dit Najos ou Najdos?
Nachos.
Nachos, ouais.
Comme les Nachos pour mal.
Je savais qu'il est blanc.
Voilà. Elle a fait quatrième.
Elle a fait quatrième, ouais.
60 000 euros.
Elle a été chip leader à un moment.
On a un peu suivi ensemble, d'ailleurs, la finale. Enfin, ensemble, on en parlait.
Un super parcours, vraiment.
Omar Lakhdari, je le disais tout à l'heure, a été à un moment le grand favori parce qu'il rentrait un peu tout.
Très gros joueur.
Savoir que c'est un bon joueur et en plus, il
quand il run comme ça, il est quasiment injouable.
Il renaît très bien. Mais à la fin, dans le heads-up, Sébastien Le Soif qui a.
Le plus patient.
Et le meilleur. Voilà.
Ouais, parce qu'en temps normal, il devait sortir depuis longtemps et puis il prend un sale coup avec les As face à 7 et 8. Et justement, c'était le 7 et 8 suité d'Alexane. Il retombe à 3 blindes et il gagne le tournoi.
Ouais,
et je crois qu'il y a qu'au poker qu'on peut voir ça.
Ouais, c'est sûr. Ouais, les Phoenix.
Le Phoenix, exactement.
Et enfin, Karl Chapé-Gassien, puisque tu en parlais tout à l'heure, 6e du 50 000 des tritons, puisqu'il ne joue plus que les tritons. Il nous l'avait dit dans l'émission, les tritons poker série. Là, c'était au Vietnam.
Mm-hmm.
Et pour 50 000 de buy-in, il a pris 389 000 dollars.
Et d'ailleurs, en parlant de Karl, il y a une vidéo qui circule sur lui, sur un gros coup où il fait le 100 000 dollars. Donc après avoir fait le 50 000, bon, bah, il fait le 100 000, hein, je veux dire, c'est un peu logique.
Oui, pour lui, c'est rien.
Où il perd 7 over 7. Il fait brelant de 7 quand il y a brelant de 10 au flop. Et là,
c'est
quand
ingérable. Tu vois. Enfin, t'as pas le choix.
Non, mais ça, ouais. Là, pour folder, Faut vraiment frotter la lampe, hein. Je te le dis, c'est, et je sais pas si le génie sort, hein.
À moins d'avoir une...
Tu bordais de nouilles.
À moins d'être extra lucide.
C'est un foldable.
Extra lucide.
C'est exactement. Voilà. Mais quand tu vois son visage, moi, je retourne la table, tu vois, mais lui, il se lève comme il s'est assis, quoi, tu vois. Donc, bon, bravo, en tout cas, Karl, hein, si tu nous écoutes.
Dans la tête d'affiche, c'est dans un instant. D'affiche. Jérémy va nous rejoindre. Pierre Calamusa va être là et on va se faire une belle séance.
Eh oui!
J'ai pas joué cette semaine, je suis un peu en manque.
C'est vrai? À tout de suite. Bah
vous écoutez
RMC. Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mundi.
Troisième et dernière partie de RMC Poker Show. Eric Lardo.
Ouais,
studio.
C'est là chez Simon Eric.
De Ledger. Ledger, c'est pour protéger tes cryptos.
Voilà, il t'a dit c'est un coffre-fort, voilà, et pour sécuriser. Voilà.
Et on rappelle qu'il a été joueur pro de poker pendant 2 ans, de 2007 à 2009. Ouais. Et c'est maintenant qu'il va falloir montrer tous ses talents.
Ah,
parce que les talents d'entrepreneur, on a compris,
il les avait. Trop dangereux.
Joueur de poker, ça date. Est-il toujours d'actualité?
Je ne vais pas décevoir.
Est-il toujours aussi fort? Va-t-il nous décevoir en nous disant le poker d'avant?
Va-t-il rentrer dans le top 3?
Voilà.
Du RMC Poker Show.
Il y a combien de temps que tu n'as pas fait, Eric, une partie de poker?
Je sais pas, 10 ans.
Oh, mais ouais. Tu joues même plus du tout avec des amis.
Non.
Quand t'as coupé.
Ah, cimetière des éléphants.
Ah ouais, complètement. Je sais pas, après que je m'en rappelle, j'ai peut-être rejoué à un moment un truc, mais non.
On va voir si t'es complètement rouillé.
J'ai complètement rouillé.
Il est avec Marc Simoncini, qui a fait partie des investisseurs de chez Winamax.
Ouais, mais on joue pas au poker avec Marc.
Ah d'accord,
on joue au Scrabble.
Ça va, Jérémy?
Ça va? Et vous?
Oh, patron.
Très bien, très bien.
Bonjour, les amis.
Et il est là, notre coach, bien aimé.
Je pense qu'il est là. Salut
à tous.
Salut, youtubeur.
Ça va, les gars?
Bien, et toi?
Ouais, super, super.
Allez, on est là, on est en place. C'est parti.
RMC Poker Show.
Dans la tête d'un fiche.
Allez les amis, direction le Palais des Congrès, on y était la semaine dernière.
Ah.
On va jouer une main du Winamax Poker Tour, la grande finale.
Ah.
On est au Day 1.
Ah.
Après quelques heures de jeu, on est 9 joueurs à table.
Ah, on est au Day 1 du main.
Day 1. Ouais.
Ah, ça va.
Ouais.
Celui que tu fais d'habitude, quoi.
Celui que tu ne dépasses pas.
Alors, excuse-moi. Tout à l'heure, Alexandre Tarantino est venu expliquer qu'il fallait absolument identifier sa personnalité, le tournoi, le buy-in, le format.
Ouais. Et
donc, je ne fais pas de tournoi en day parce que ça n'est pas mon format.
D'accord,
ça n'est pas ma personnalité.
D'accord.
Il faut retenir les leçons. C'est très important. Pierre Calamusa.
Ouais, il faut un tournoi à 200 joueurs.
Pourrait dire que je fais bien et qu'il faut toujours choisir et faire les bons choix.
Fayot.
N'est-ce pas, Pierre?
Après, c'est aussi parce que t'as pas le temps.
On va pas se mentir. Aussi.
Ouais, qu'il y a pas la patience aussi.
Oui, à Vegas, le 3000 que tu veux jouer, il est sur plusieurs jours. Hein.
3000.
Ouais, là, c'est pas pareil.
Il fait 3000, je me balade en maillot de bain dans la vallée de la mort.
Ah, attends, ce serait super, c'est parfait pour lui.
Mais tu vas pas tarder à t'y balader.
Bon, on est 9 joueurs à table, on a un stack de 73 000, le tapis de départ était de 50 000, on est au blind 300-600, ce qui fait environ 120 blindes.
Ouais.
On est encore assez confortable. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'on est UTG et qu'on ouvre une jolie petite paire d'as. As de pique, as de trèfle, je vous écoute, les blindes 300-600.
Alors, au début du D1, du main, de ça, il y a encore une tonne de chatards à table possible.
Regarde, tiens, il va se noircir.
Il faut les faire fuir.
Non, je vais pas me noircir, il y a encore une tonne de chatards.
Et alors, t'es pas content?
Voilà.
UTG, t'as les as.
C'est quoi les blindes?
Les blindes 300-600, et on a 73 000 de tapis et une petite paire d'as. Combien on fait UTG?
Parole à notre invité d'abord.
Eric.
En fonction de la table, 2000 ou 2005, en tout cas, je fais pas un petit bet, je veux pas encourager à être 5 après le flop. Quoi. Après le flop, parce que ça, sinon.
Faire fuir ces mecs à accident.
Exactement.
Mundia.
J'allais dire 2000, ouais. J'aime bien faire grossir le pot.
Ok. Enfin, Daniel.
Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as les as et tu joues différemment de
non, ce
que
j'aurais fait 2000, 300, 600, 1000,
avec les 10.
Je fais 2000, je fais 2000.
Et t'aurais fait la même chose, quoi qu'il en soit, sur 600. Tu fais 2000.
10 plus, je fais 2000.
Ça veut dire que tu fais.
Ouais, grosse paire,
ouais. Ouais, 10 plus, je fais 2000,
Tu veux faire grossir le pot et
surtout avec l'image que j'ai, je fais 2000. Voilà.
Bah, je trouve ça étonnant parce qu'en fait, moi, je fais exactement ce que j'aurais fait.
1500
en temps normal. 1500, quoi.
Mm-hmm. Non, j'ai pas envie que le mec me colle avec ça.
Pierrot, le coach.
Ah, mais ça veut dire que toi qui dis toujours que tu te fous de ma gueule en disant quand t'as les as, tu te chies dessus.
Je fais 3.
Bah là, en l'occurrence, t'étais limite à prendre de l'imodium. Hein.
Là?
Ouais.
Okay. Ouais. En fait, là, ce qui est hyper important, c'est si vous avez des bons joueurs à table, ne variez pas la taille de votre relance en fonction de la force de votre
relance.
Parce
coach.
Que c'est hyper facile et très lisible, par exemple. Nous, souvent, les joueurs professionnels, quand on a un joueur amateur qui commence à faire 5 fois la grosse blinde quand il a paire d'as, paire de rois, paire de dames, et 2 fois la grosse blinde quand il a un 7-8 de carreau ou un roi-dame, ça devient tout de suite très très facile à jouer parce qu'en fait il devient parfaitement lisible. Donc j'ai quand même tendance à penser faites la même taille d'ouverture quelle que soit votre main, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Faites 3 fois la grosse blinde, 2,5 fois la grosse blinde.
Ok, voilà, nous on a fait
mon 1005.
Très bien.
Ouais, merci.
Nous on a juste fait x2, on a fait 1200, tout le monde a fold.
Ça, c'est
jusqu'à la petite blinde qui est à 40 000 de jetons, on la couvre. Qui va nous 3 bêtes.
Génial.
À 4800, qu'est-ce qu'on fait après avoir joué dans ces cas-là, Moundir?
Moi, je le garde avec moi.
Eh ouais, mais est-ce que tu vas le surrelancer? Est-ce que tu vas juste payer?
Non, je
avec les as?
Bah non, parce que là, si je chauffe, je pense qu'à mon avis, soit il a les rois. Bah écoute, bah ça, voilà.
Là, c'est magnifique.
C'est un setup, et puis voilà. Non, moi, je vais le garder avec moi. Je vais pas tout lui envoyer.
Just call.
Ouais, je just call, ouais.
Eric.
Ça dépend du joueur aussi, ça dépend.
Je peux pas te donner le profil.
Ouais, ok. Mais, disons qu'à ce stade-là, je me dis j'ai plus de chances pré-flop contre un random. Je sais pas s'il est très bon, pas bon. Si le mec, tu vois, j'ai aucun tel, rien. Donc je 4 bêtes.
D'accord. Tu 4 bêtes.
Moi, je suis sur la ligne Eric. Le garder, j'entends ce que tu dis, mais le garder, ça peut être aussi, je le garde, je show, je mets tout et je le garde avec moi parce qu'il me paye et il part forcément derrière. Donc je pense que
bah les as, c'est soit il a les rois, soit il a
ouais, et bah donc pourquoi pas faire tapis.
Ouais, sur un 80-20,
pourquoi pas faire tapis sur à ce moment-là sur 1200, il met 4008. Alors, je vais pas faire tapis. Mais je
après 4008
ça va bah c'est ouais, 4 bêtes,
ça risque au tapis,
ça risque d'aller loin, mais là combien tu m'as dit que j'avais de tapis?
T'as 73 000, t'es encore large, hein.
73 000, 4800, il a mis 4008.
Ouais. T'as fait 1200, il a fait 4800.
Il y a des chances que je lui mette entre 15 et 20 là-dessus.
Entre 15 et 20. Bêtes, ouais. Pierre, on en pense quoi? On paye juste, on le garde avec nous ou...
Alors, les deux options sont viables. Je pense que dans un tournoi comme le WPT, la grande finale, en fait, face à un raise UTG à 9 joueurs, le 3 bet depuis la petite blinde, il représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Et en fait, je pense que si on 4 bet à 10 000, 11 000, 12 000, on a quand même beaucoup, beaucoup de chance de faire grossir le pot d'une part, s'il a une main comme As-Roi, As-Dame suité, il va au minimum payer. Et aussi simplement qu'il nous fasse tapis avec paire de rois, paire de dames, paire de valets, auquel cas ça permettra de mettre tout l'argent pré-flop. Donc là, je pense que 12 000, c'est quand même pas mal du tout.
Ok. Nous, on a fait comme Moundir, on a décidé de juste payer. Le pot fait 10 800 et le flop vient 3 de carreau, 4 de cœur, 5 de carreau. Check de la petite blinde.
Tu peux répéter le flop, s'il te plaît?
3 de carreau, 4 de cœur, 5 de carreau.
Ok.
Check de la petite blinde. Et c'est à nous de parler. Eric, sur ce flop 3-4-5,
on a un avec carreau, deux carreaux. On a un carreau,
ouais, il y a deux carreaux, il peut y avoir un tirage si jamais il a As-Dame ou As-Roi carreau, mais sinon jamais il a une paire de 2, une paire de 4, jamais il y a un 7.
D'accord.
Très intéressant.
Donc le fait qu'il check, je pense qu'il essaye de slow-player sa paire de rois ou je sais pas quoi, je comprends pas qu'il check, c'est assez bizarre, après avoir montré une grande force, surtout si moi j'ai juste
pas,
payé. Donc là, je pense que moi je monte de la force quand même.
Prendre l'initiative.
Parce que je vois mal sur un tirage suite, mais je n'ai pas envie de lui faire une carte gratuite en tout cas.
D'accord.
Donc là, je mets, un petit 7000.
D'accord. Ouais, 7000 dans 10 000.
J'ai dit 9000, ouais.
Je suis absolument sur la même ligne qu'Eric. Voilà. Pareil, là, à un moment. Déjà, au final, vu le coup, comment ça s'est passé avant, le mec a call, hein, mais moi, ça m'emmerde même de voir le flop. Hein, à partir du moment où ça s'est emballé comme ça pré-flop, autant qu'on aille, on aille au bout, quoi. Donc là, voir le flop, ça m'emmerde un peu, même si 3, 4, 5, c'est pas défavorable. Mais il est clair que je mets une bonne sacoche. Ouais.
Pierre, qu'est-ce qu'on fait dans ce pot de 10 000, sachant que la petite blinde a check?
Ok, dans la théorie pure mathématique, c'est une main qu'on devrait réfléchir à check. Simplement pour protéger notre range, c'est que ici on a beaucoup de mains moyennes de type As-Dame, de type paire de 8, paire de 9, paire de 10, qui vont avoir du mal à supporter l'agression après un check de notre part. Et donc du coup on a besoin d'inclure des mains aussi fortes que paire d'As. Et aussi ça permet, si notre adversaire nous a simplement par exemple sur relancer pré-flop avec Roi-Dame et décide d'abandonner, de laisser toucher ou de laisser bluffer sur les turns. Donc dans la théorie je pense qu'on doit check back, mais après dans la pratique miser est très bien aussi. C'est vrai qu'il a souvent une main comme paire de rois, paire de dames. Mais de toute façon, avec ces mains-là, généralement, on va pouvoir réussir à tout prendre turn river, puisqu'il va faire 10 000 turns, 20 000 river, on lui fait tapis par-dessus. Il ne va pas pouvoir foller sa paire de rois et on aura tout pris quand même.
Bon, dans l'optique de piéger, on a tapoté la table également. On a check le turn, 2 de cœur. On a désormais quinte. Il y a 2 carreaux, 2 cœurs. Et là, c'est notre adversaire qui va miser et qui va avancer 6 800 dans ce pot de 10 800. Qu'est-ce que ça veut dire? On a quinte, nous, avec l'as. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est inquiet, pas inquiet? Daniel.
Tu peux juste être emmerdant, c'est d'envisager qu'il ait un as aussi, quoi.
Ouais.
Et là, pour le coup, là, bah, on prend plus rien.
De toute
et
façon,
c'est,
mais ouais, mais il lâchera jamais, quoi.
Mmh. Absolument.
Mais bon, la messe est dite.
Absolument.
Mais là, moi, je lui mets tout dans la terre, hein.
Qu'est-ce qu'on fait?
Moi, j'ai l'impression.
Il mise 6 800.
Je pense que je partais.
Dans 10 800.
Je lui mets tout dans la bouche, hein, pardon, mais ouais. Je lui mets tout. Mmh.
Tu mets tout?
Ouais, je lui mets tout. Ouais.
Tapis?
Parce que je suis pas en danger derrière.
Bah, je vois pas ce qu'il pourrait folder, à part. Dans le but de le faire folder son as.
Ben ça, ouais. Si bah tu lui mets tout, tu peux être payé que par mieux.
Que par mieux, bien sûr. Mais là, le mieux, c'est moi qui l'ai. Hein, toute façon,
ce temps. Serait quoi la paire
qu'il
de 6
pour l'an 5.
Ah, ben non, mais un 6 fait quinte supérieure.
Ouais, mais il aurait quoi, paire de 6 non, c'est impossible.
Quoi, il aurait
fait ça, ça,
je sais pas.
Il aurait fait le 4008 initial avec paire de 6.
Si
l'affaire se termine comme ça.
Moi, je paye juste parce que je me dis, s'il bluffe, de toute façon.
Tu lui prendras tout, quoi qu'il arrive, Rivière.
Ouais, voilà. Alors que si là, si je fais tapis, s'il a rien, il va partir. Et puis, enfin, je vois pas avec quoi il va payer, en fait, à part le split.
Ok.
J'ai déjà pratiquement plus de.
Vous auriez tout poussé. Pierre, qu'est-ce qu'on fait?
Dans la 100% d'accord avec Eric, c'est soit notre adversaire, franchement, il nous a trois bêtes, un truc genre roi, dame, valet 10 suité, et il se sert de cette carte pour représenter ce que nous on a, c'est-à-dire un as. Mmh. D'accord. Soit il a lui-même l'as et de toute façon on va pas le faire folder. Donc autant le garder ses bluffs et simplement payer là, surtout pas de relance et surtout pas à tapis quoi. Là c'est vraiment mal joué quoi.
Ok. On a payé effectivement, on a juste payé river 6 de pique. La quinte est affichée au board et là pas grande hésitation en face. Tapis 28 400 en face et avec notre paire d'as. On est bien embêté.
Elle vaut plus rien.
Elle vaut plus rien. On paye pour un split, on paye ou pas? Qu'est-ce qu'il en est?
Il n'y a pas trois carreaux, il n'y a pas de.
Non. Ok. C'est du pic.
Il y avait. Voilà, déjà, c'est.
Rimbaud.
C'est malheureux comment ce coup s'est déroulé pendant.
En tout cas, nous, on a mal joué et lui, il a bien joué. Voilà. Donc là, c'est l'horreur parce qu'en fait, tu payes la mort dans l'âme, en fait. Et question, donc je ne sais pas ce qui te reste. Tu vois, est-ce que tu as abandonné la moitié de ton tapis?
Non, on avait un tapis de 73 000.
Je ne veux pas faire le rabat-joie, mais quand au tout début, sur son 4008, je ne sais pas si Moundir, tu étais avec moi, on a réfléchi à faire tapis tout de suite, je pense qu'on se serait relevé le mal de tête. Hein.
Pas faire tapis, mais lui faire 15 ou 20 000.
Ouais, mais le but au poker, c'est de rentabiliser à fond.
J'avais dit, oui, en l'occurrence, parfois, tu peux aussi. Moi, honnêtement, dans ce coup-là, avec le 3 bêtes, aller voir le flop, ça m'emmerdait, parce qu'il y avait matière à piège. Moi, je veux bien qu'il faut rentabiliser, mais enfin, si là, ça va se terminer.
Il lui reste combien? Il a mis 28 000. Il lui reste combien?
Lui, il fait tapis 28 000. Ah, tapis, et nous, si on paye, il nous reste 23 000 derrière, alors qu'on avait un tapis de 73 000.
Ouais. Donc fait, là, c'est quoi? Faut envisager la paire de 7 chez lui.
On peut tellement avoir une paire de 7, ce stade, qu'on a laissé jouer et qu'on a laissé venir.
Absolument, c'est ça que je me dis.
Bah, je vais quand même coller, moi, je colle.
Moi, je vais coller.
Tu folles?
Moi, je me dis, putain, je suis vraiment une merde. J'ai joué ce coup comme une merde. Et je veux pas me punir, en fait. Je veux pas me punir. Et donc, je me dis, ok.
Tu vas handicaper ton tournoi.
Voilà, je fold.
Fold.
Putain, moi, la mort dans l'âme, je colle quand même. Parce qu'au pire, c'est soit on est égalité, soit il est devant. Donc, c'est.
Ah, bah oui, merci.
Même s'il en bluffe. Mais non, mais même s'il en bluffe.
Là, jusque-là.
Non, mais même s'il en bluffe.
Que là, on va être d'accord.
Même s'il en bluffe. Mais là, folder, ça me paraît compliqué.
Daniel.
Est-ce que donc, dans un D1 de ce main, on tombe sur un type assez taré pour aller bluffer?
Il y en a des tarés,
ce coup-là. Ça, je vais l'exclure. Parce que je vais me dire, le mec, il est venu, il a foutu ses 1500 balles. Est-ce qu'il va aller s'envoyer en l'air à bluffer, sachant que j'ai quand même montré de la force par ailleurs et tout ça? Mais écoute, pour moi, je vais me mettre dans le camp d'Eric. Si jamais le mec, on le battait.
On peut pas le battre.
Tu peux pas le battre.
Non, mais genre, il était en bluff.
Ouais.
Non, mais même, de toute façon, soit il a rien.
Il est roi valet, il est 2 et 10.
Donc, ça me rassure.
Pierre, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis toujours étonné de voir, par exemple, un investisseur ou un analyste de foot, le poker, mais aussi le foot ou aussi le faire du business, c'est pas s'enlever le mat de tête ou c'est pas parce que la pire river arrive de se dire j'ai mal joué. C'est pas ça du tout. Le but, c'est de maximiser ses chances. Après, effectivement, arrivent des événements indépendants de notre volonté qui sont les cartes qui tombent. Ici, on s'est tapé la pire river, mais cette main, elle est parfaitement jouée depuis le pré-flop, le flop et le turn. Donc, c'est pas parce qu'on se tape la pire river qu'on doit se dire ah, mais j'aurais dû faire tapis, etc. Ça, vraiment, il faut se détacher de ces raisonnements-là parce qu'ils coûtent énormément.
Moi, je ne me détache pas du raisonnement, Pierre. C'est juste que là, comme on est en train de jouer avec une main qu'on n'aurait pas menée, nous, de cette façon-là, je suis bien obligé de dire que de toute façon, je n'aurais pas fait ça.
Oui, mais il a raison sur la situation.
Sur la situation, tu as raison.
La situation, c'est que la pire rivière arrive, mais imagine que ça soit la rivière soit un blanc, un 10, et qu'il te fasse tapis avec Roi-Valet qui l'aurait 3 bêtes, et tu payes, et tu te dis, bah, parfait, je l'ai.
Donc, tu veux dire que ma réflexion, je la mets à la poubelle, qui est de penser que sur un D1 d'un main comme ça, le mec ne peut pas
faire tapis avant le flop, c'est vraiment pas bien. C'est relance 4008, tapis.
Je veux que
60,
tu m'enregistres cette phrase, s'il te plaît.
Non, mais c'est vrai, tu gâches une opportunité qui est d'avoir paire d'as contre un mec qui te surrelance en le faisant jouer parfaitement, c'est-à-dire contre une main comme paire de rois, paire de dames, tu prendras tout quoi qu'il arrive, mais tu as envie de le laisser bluffer après le flop.
Alors donc,
le
tu sais faire quoi, Pierre, erreurs, tu payes alors là?
Bah,
tu payes son tapis.
Là je connais la main, c'est difficile. Là, je connais la main, c'est une main qui a pas joué, été jouée day 1, qui a été jouée en table finale.
Ouais, je l'ai changé.
Les positions sont pas du tout pareilles.
Bravo, bravo. Pareil, non, ça change rien. Non, franchement, ça change rien du tout.
Ah, pour moi, Pierrot, ça change tout. Hein.
Bah, le truc c'est que par exemple, ici, notre adversaire peut pas avoir paire de 7. Et Eric l'a bien dit, par exemple, au tout début, il aurait jamais paire de 3 bêtes, paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6, paire de 7. Contre un raise UTG, il aurait simplement payé cette main.
Alors que c'est étape finale, j'ai pas du tout la même réflexion que D1 pour moi.
Ouais,
parce
alors
que bouton, tomber, je l'ai dit d'entrée, on pouvait tomber sur des joueurs qui peuvent le faire ce truc-là.
Ouais, mais t'as dit D1, le mec serait pas assez taré pour faire ça et ce serait pareil en table finale.
Non.
Bah.
Non, en fait, non, surtout ce qui change, c'est que bouton contre small blind, la small blind est tentée de la paire de 7 de la small blind prend énormément de valeur contre une ouverture au bouton. Et donc, elle est tentée de la surrelancer, ce qui fait beaucoup plus de 7 dans son range que contre un raise UTG, 9 joueurs, etc. Donc, la main est un peu, j'ai bien aimé l'idée de transformer le spot et de le rendre un peu plus magique, quoi. Dans ce coup-là, je pense que c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, on joue que pour la moitié du pot et nous, on a des 7 dans notre range. On peut avoir 7 et 8 suité, on peut avoir paire de 7 contrairement à notre adversaire. Donc, on n'est peut-être pas obligé de coller 7 paires d'as. Voilà, après je connais la main, c'est Alexandre qui l'a joué.
Exactement. Donc on a payé très rapidement, effectivement, qui a acheté de l'espace avec 7 et 8 de carreau.
7 et 8 de carreau.
Mais magnifique max, River. Incroyable.
F4, F4 max, un truc de fou.
Et je pense que justement cet adversaire là, c'était bon, le Swatch qui a gagné. Il n'a pas eu peur justement. Il était en table finale pour beaucoup d'argent. Il n'a pas eu peur de slow play.
C'est le vainqueur, c'est le vainqueur justement.
D'accord. Oui, bah là effectivement en table finale, bon ça change le contexte peut-être un petit peu sur. En tout cas vous étiez super deep quand même ou les.
Ah bah oui, c'était très très deep, très très deep.
Mais je pense que c'est moins deep en réalité. Mais
oui, en réalité, c'était moins deep.
Oui, voilà,
et surtout, en fait, t'as envie de laisser 7 et 8 de carreau dans la range adverse. Si tu fais tapis, il va le folder son 7 et 8 de carreau. Là, t'as envie de le laisser faire de la merde, que ça vienne roi, dame, 3 et qu'il te bluffe avec 7 et 8 de carreau, tu vois. Donc, le but, c'est au poker, c'est de déclencher les erreurs adverses, de ne pas les faire jouer parfaitement et de ne pas avoir peur.
Non, il a
d'avoir la bonne dose de peur.
Très rapidement, il a perdu.
On a perdu, ouais.
Et
Alexandre est dégoûté.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci, mon Pierre.
Merci à tous.
Et puis, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Eric Larchevêque, d'être venu dans le RMC Poker Show.
Ouais, Ledger, pour les gens qui ne connaissent pas, où est-ce qu'ils peuvent aller voir Ledger.com.
Ledger.com, tout
voilà,
simplement.
Super, ben voilà, les amis. N'hésitez pas. Merci, Daniel.
Merci.
Merci. À très vite. Merci, Eric. Ciao.
Durant une heure, RMC met carte sur table.
C'est le RMC Poker Show.